Vous écoutez un balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec.
Je sais tellement pas où je serais si j'avais pas fait cet album-là. J'ai aucune idée. Pour moi, c'est vraiment la première fleur du jardin. Là. Je vois ça bien poétique alors que c'est bien trash, mais en dedans de moi, c'est ce que ça fait. C'est le premier caillou sur le chemin que tu mets pour te retrouver. C'est énorme, cet album-là, pour moi. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup confiance, alors que j'avais pas confiance ni en mes émotions, ni en ma voix. Pour moi, je vois ça comme la première rose de... Maintenant, j'ai une grande roseraie.
Je m'appelle Fabiola Nirvala-Ladin. Je suis comédienne, enseignante, chanteuse, mais surtout mélomane. Je vous présente une série balado qui nous plonge dans l'histoire d'albums marquants de la musique québécoise. Dans cet épisode, on s'intéresse au premier album solo de Marat Tremblay, Le Chihuahua, qui est sorti en 1999. C'est une œuvre que Marat Tremblay qualifie elle-même de grunge authentique, un mélange de sons qui donne un album unique.
À cette époque-là, j'étais très, très instable et intense et à la recherche de mon cœur. Fait que ça a fait un album à cette image-là, je pense. Maintenant, je suis vraiment plus calme, plus sereine. C'est sûr que j'ai gagné en âge, fait que j'ai gagné en maturité. J'écris pas de la même façon. Je suis beaucoup moins à la recherche de mes émotions, je suis moins désespérée, j'ai moins mal dans le ventre, j'ai moins mal dans le cœur, j'ai moins mal dans la tête. Maintenant, je sais, avec les années, j'ai appris que j'étais bipolaire, donc maintenant que je suis traitée et que je comprends pourquoi j'étais comme ça, c'est plus calme, là, ma vie est vraiment plus calme. Mais je pense que j'avais besoin de le vivre à cette époque-là pour comprendre aussi.
Marat Tremblay est une des figures marquantes de la chanson québécoise des 30 dernières années. Que ce soit à titre de violoniste, bassiste, mandoliniste ou guitariste, à l'avant-scène ou comme accompagnatrice, Marat Tremblay réussit toujours à émouvoir ou à galvaniser le public. Dans les années 90, elle a fait partie des groupes Les Colocs, Les Frères à cheval et Les Maringouins avant de se lancer en solo.
J'ai toujours eu la musique dans ma vie. Ma mère écoutait tout le temps la musique, elle chantait tout le temps. Mon père aussi. Mon père, il jouait de la guitare, du piano, du violon. Et il a rencontré Plume la Traverse quand j'avais genre 4 ans, dans un bar où il faisait des sketchs, où les deux étaient portraitistes, finalement. Fait qu'ils se sont liés d'amitié. Puis nous, on habitait à Haute-Rive, sur la Côte-Nord. Puis Plume m'a sorti son premier disque. Puis mon père le faisait jouer tout le temps. Puis là, moi, je tripais sur Ne pleure pas en sachant pas en tout de quoi ça parlait. Et pour m'attirer à Montréal, parce qu'il a fallu qu'on déménage à un moment donné, en 76, il a dit, tu vas aller rencontrer Plume, tu vas rencontrer ton idole. Donc, tout de suite, j'ai été hyper influencée par la présence à la maison de Plume la Traverse, de Steve Faulkner, j'ai rencontré Marjo quand j'étais petite. J'ai été plongée dans l'univers musical très, très, très tôt dans ma vie. Et c'était pas juste en mettant un disque. C'était en allant voir des shows, même si j'avais 10 ans. Et à la maison, les parties finissaient toutes. La famille Tremblay, c'était tout le monde jouait, chantait. C'était la musique tout le temps chez nous.
En arrivant dans la grande ville, les parents de Marat l'inscrivent à l'école Le Plateau en concentration musicale. Elle passe l'audition comme si de rien n'était.
Les professeurs ont été très compréhensifs envers ma différence. J'étais vraiment différente des autres, venant d'un univers différent. Puis ayant le cerveau que j'ai, je fitais dans rien. Mais en même temps, ils ont été hyper compréhensifs, puis ils m'ont fait une place. Puis dans mon souvenir, j'ai eu un primaire très, très... heureux, même si je me faisais pitcher dans le lac du parc. Je me faisais battre. J'étais vraiment trop sensible pour être à l'école, mais les profs étaient derrière moi. Puis en musique, je me démarquais vraiment. Fait que ça m'a fait beaucoup de bien de savoir que j'avais un endroit où je pouvais m'épanouir, c'était la musique. Donc, je me suis jamais posé de questions sur qu'est-ce que j'allais faire dans la vie. C'était là que j'étais bien. Point.
Pour Marat Tremblay, le violon est le prolongement de son cœur. Toutes ses émotions sont canalisées dans cet instrument-là. Plus que n'importe quel autre instrument, le violon lui permet de faire résonner l'intensité de tout ce qu'elle ressent. À l'adolescence, elle commence plutôt à jouer de la basse pour se défaire du carcan de la formation classique qu'elle associe au violon.
Ben, je jouais de la basse dans un groupe qui s'appelait Les Maringouins à l'époque. On faisait des chansons de Madame Bolduc, c'était un gars qui chantait. Et moi, j'étais habillée avec des grosses bottes de moto, des shorts de cuir, puis un manteau en cuir. Puis à un moment donné, je me suis acheté une Précision 62, que j'ai encore. J'ai personne qui va m'enlever cette basse-là. Et on s'est mis à faire des petits interludes de Jimi Hendrix pendant les tunes de la Bolduc. Fait que, tu sais, le rock est arrivé quand même. J'avais quand même besoin de déchirer un peu, même à cette époque-là. Tu sais, j'avais 19 ans. T'sais.
Une chance que spaghetti pour sortir de l'ennui. Quand il n'y a plus rien à manger, c'est toujours bon de se rappeler. C'est mieux spaghetti à papa qu'une assiette de viande à chine, c'est chaud.
Je pense que j'ai toujours eu à l'intérieur de moi ce chihuahua, là, comme on dit, d'être à la fois très attendrissant, comme le petit chien qui fait un peu pitié, mais très... qui pense qu'il est énorme et qui peut faire peur à tout le monde. Mais finalement, il est bien sensible en dedans.
En 1993, Dédé Fortin appelle Mara. Il veut qu'elle accompagne les colocs au lancement de leur premier album. C'est là qu'elle recommence à jouer du violon. Lors des spectacles des colocs et des Frères à cheval, elle se fait de plus en plus remarquer sur scène. À cette époque-là, le paysage du rock québécois est surtout composé d'hommes.
Ayant un tempérament très masculin, à la base, je l'ai encore beaucoup, j'étais bien à l'aise là-dedans, puis je me rendais pas tant compte que ça, jusqu'à temps que quelqu'un comme Robert Charlebois dise au lancement des Frères à cheval que je jouais bien de la mini-jupe. Que, tu sais, des espèces de commentaires comme ça, très misogynes, qui m'ont fait réaliser que, Caroline, il écoute pas ma musique. Tu sais, je faisais des Christy de beaux solos, pareil. Tu sais, je faisais des arrangements, c'était pas rien, là. Oui, j'étais en mini-jupe, oui, tu sais, mais je m'en rendais pas compte que il y avait une différence musicalement quand les gens regardaient les Frères à cheval. Ceci étant dit, j'ai pas arrêté de porter des mini-jupes, j'ai continué à faire de la musique comme ça, puis encore maintenant, il y a rien qui va me... Je suis à l'aise, that's it, là. Mais il y a une espèce de frustration qui est apparue quand j'ai compris que les gens, des fois, ils regardaient plus qu'ils écoutaient quand t'étais une fille. Alors que quand t'es un gars, ils sont moins... Ils font moins la différence entre ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Et avec les colocs, j'étais l'amie, la confidente de tout le monde. Mais à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des enjeux émotifs qui viennent là-dedans aussi. Mais entre deux gars, ça peut arriver aussi que tu as des affinités ou tu n'en as carrément pas, puis tu te prends la tête. Sauf que quand tu es une fille dans un milieu, mettons, tu pars en tournée avec 10 gars, c'est certain que tu as plus d'affinités avec un avec l'autre. Hein. Ça peut créer des problèmes. C'est pas toujours le fun. Ça fait souffrir. Non. Ça n'a pas été un outil dans ma vie, je te dirais, d'être une fille en tournée. Mais sur une scène, j'ai été très choquée de pas pouvoir être étiquetée comme autre chose qu'une bonne musicienne juste parce que j'étais une fille qui portait une jupe un peu courte.
Au printemps 1997, Mara est à la croisée des chemins. Elle quitte les Frères à cheval et prend une pause pour donner naissance à son premier enfant. Mais Patrice Duchesne, des disques Audiogrammes, la lance sur une piste inattendue.
Les Frères à cheval, c'était ce qui m'attirait beaucoup dans ce groupe-là, c'est qu'il y avait deux chanteurs, deux créateurs, Polo et Thibault. Polo qui était plus le côté comique, poétique, et Thibault qui était plus le côté philosophique, poétique. Les deux ensemble, à mon avis, ça créait quelque chose de magnifique. Et quand Thibault est parti du groupe, ça me tentait pas de faire partie d'un groupe qui était que comique. Même si j'aime beaucoup Polo, je m'identifiais pas à ça. Et je venais d'avoir Victor, je venais d'accoucher de mon beau garçon. Donc, pour moi, ça a été évident de juste faire une pause. J'ai jamais pensé au futur dans la vie. Fait que j'étais juste en pause avec mon garçon. Puis je me disais, bon, ben c'est ça. Je venais d'enregistrer l'album avec Yves Desrosiers, avec qui le père de mon garçon, qui travaillait avec Lassa de cela à l'époque. Fait que, tu sais, je revenais un peu à... J'avais confiance que musicalement, j'allais servir à quelque chose. J'allais quand même... Je voulais pas réorienter ma vie. Je jouais de la basse, du violon, de la mandoline. Je jouais plein d'instruments. Il n'y a pas de... Jusqu'à temps que Patrice Duchesne me téléphone pour me dire, ben moi, je t'entends solo. J'avais jamais... Tu sais, j'avais une chanson, en fait, que j'avais proposée aux Frères à cheval, qui était la chanson « Tout de nuit avec toi », mais qui n'avait pas été un succès auprès du groupe du tout. Fait que j'ai dit, j'ai une toune, je peux essayer d'autres choses si jamais. Tu m'apportes une console. Et maintenant, l'histoire le sait, mais il n'y avait pas de console à louer. J'avais demandé une 8-pistes, genre, parce que je fais des arrangements de violon, des arrangements de chorale, puis là, j'avais juste un 4-pistes. Je trouvais ça comme un peu tannant de toujours bouncer mes pistes de violon, puis je pouvais plus faire de mix après. Fait que j'avais demandé au moins une 8-pistes. Il m'arrive, il dit, j'ai rien, on a rien, on a juste une 32-pistes. Écoute, je m'amusais comme un enfant. Je me suis mis aucune pression. Je prenais un instrument, je jouais, puis je composais d'autres choses, puis je faisais des arrangements, puis c'était vraiment que du plaisir. Puis ça a donné toutes les démos du show.
Le fondateur des disques Audiogrammes, Michel Bélanger, est séduit par les maquettes que Marat Tremblay a enregistrées dans son bungalow de Saint-Lambert.
C'était bien impressionnant d'avoir une main tendue de Michel Bélanger qui produisait quand même des artistes solides, alors que moi, j'étais un peu n'importe quoi. J'arrivais, tu sais, j'avais pas de voix, j'étais pas une chanteuse. Ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps avant de triper à chanter. Ça, encore une fois, ça fait vraiment pas longtemps. Maintenant, je trippe fort à chanter. Maintenant, je peux dire que je suis une chanteuse. Qui aurait pris un risque sur une voix comme ça? Je sais pas. Là, j'aurais probablement continué à être musicienne avec d'autres artistes et à être très heureuse comme ça. Mes premières années de scène, j'étais pas heureuse là, à chanter. J'étais pas... Je suis pas une chanteuse née, là, mais là, j'étais pas... Je veux être en avant, s'il vous plaît. Tu sais, comme bien du monde que je connais qui ont besoin d'être vus, d'être entendus, qu'on parle d'eux. Je suis plus, encore une fois, le chihuahua dans le coin de la salle qui fait « Je suis pas sûre! » Fait que si Michel avait pas été là, je sais pas si Marat Tremblay existerait.
Au moment où écrit les pièces de l'album Le Chihuahua, Marat Tremblay découvre un chanteur et musicien du Lac-Saint-Jean qui deviendra un collaborateur important. Joseph-Antoine Frédéric Fortin-Perron, alias Fred Fortin.
La souplesse de ta chair, mon esprit carnivore. Ta louange m'exaspère, ma pudeur s'évapore. J'ai mis mes doigts dans tes fesses, le country dans le prélat. Tu t'es pogné le pied dans le strap du criard.
L'artiste au complet. M'a complètement charmé. En plus de ses chansons qui étaient magnifiques, les arrangements, il m'amenait en quelque part où j'avais jamais été là. Je pense que ses progressions d'accords, ses mélodies. Puis, quand t'es venu te faire un solo, le temps de faire un solo dans Tout nu avec toi pour mon démo, avec mon 32 pistes. Je jouais pas de solo de guitare électrique à l'époque. Maintenant, j'en fais, mais c'est Mike Sawatzky qui pouvait pas venir faire un solo, qui m'a dit, ben il demande à Olivier Langevin, c'est un jeune... il joue de la basse avec Fred Fortin. Il va le voir en show. Fait que j'ai été voir Fred en show et Olivier par le fait même. Puis en show, c'est encore... Je veux dire, je suis vraiment tombée sur le cul. Là. Vraiment, vraiment d'aplomb. Fait que ça a été ma grosse influence pour écrire l'histoire, c'est clair.
En compagnie d'Olivier Langevin et de Fred Fortin, Mara Tremblay monte au lac avec son fils Victor. Il s'installe dans le chalet de Fred pour enregistrer son premier album.
Ah, c'était drôle, my God! Quelle épopée! Aïe, 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 aïe! Je pense qu'il n'y a pas de mots. Il y a juste nous trois qui peut comprendre ça. Premièrement, son chalet était en bas d'une grande pente, tu sais. Puis on descendait avec un Leslie. Le truck était super loadé. Ça glissait, on n'a même pas utilisé le Leslie en plus. Fait qu'on était comme pris d'un cocon de neige avec plein de bouffe, à faire de la musique, à chercher. Puis c'était bien plus long que prévu. Je me souviens que ça a comme pris beaucoup plus de semaines qu'on avait prévu. Je me souviens qu'à un moment donné, Fred nous a envoyé faire d'autres choses parce qu'il cherchait la ligne de basse pour le spaghetti. À un moment donné, on est revenu, on l'entendait de loin, on était dans la montagne, puis on entendait sa baisse de loin. Il a travaillé très fort là-dessus. Mais encore une fois, on peut en parler, parce que ça fait longtemps, on a fumé bien des battes. On a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de musique. Beaucoup de musique. La complicité. On a regardé les étoiles beaucoup. C'était, tu sais, dans nature totale. Fait que je pense qu'à nous trois, on avait une bulle assez incomparable. Impossible à refaire. Ça, c'est impossible, impossible à refaire. Puis un peu grâce au fait que Fred avait peut-être moins confiance qu'Olivier, parce qu'il me connaissait pas du tout, finalement. Olivier était capable d'entendre le projet parce qu'on l'avait créé ensemble, t'sais. On avait écouté de la musique ensemble, ça. Mais le fait que Fred était peut-être moins confiant, il entendait pas que ça allait donner, tout ça. Fait qu'il était en haut d'un précipice, là. Il était d'un vertige. Je voulais bien faire, mais il savait pas trop. Fait qu'il s'est donné à 3000% là. Là-dedans. Tu sais, c'était de la camaraderie à ce que la musique peut offrir de plus beau, je pense. Ce disque-là a capturé de l'amour, de l'amitié, de la complicité, de la musique. Puis c'est ça qui est beau. Cet album-là, je l'ai fait en garrochant mes émotions en musique. Puis la musique que j'avais besoin de faire à cette époque-là, c'était une musique qui était plus crue que maintenant, parce que j'avais les émotions beaucoup plus à cran, puis beaucoup plus ouvertes. J'avais vraiment le cœur de même, aussi, ouvert, puis en souffrance, puis qui voulait aimer, puis qui n'était pas capable, finalement. C'est une revendication et un besoin d'amour en même temps, puis c'est quelque chose de très cru, mais sincère, authentique, parce que toute la musique qu'il y a là-dessus, ça vient vraiment du cœur et c'est direct. Il n'y a rien de faux. Il n'y a rien de fait pour plaire. Il n'y a rien qui est fait pour avoir l'air de ou passer à la radio ou non. C'est vraiment carrément authentique.
Il fait pas beau. Bye.
Cette authenticité-là, dans les paroles, la voix et le son que Mara propose, beaucoup de gens l'ont associé au country, un genre musical pas toujours bien vu, surtout en 1999.
Parce qu'à cette époque-là, le country, il n'y en avait pas, premièrement. Il y en avait, mais c'était au Festival de Saint-Tite, dans les truck stops. Le country n'avait pas ses lettres de noblesse comme maintenant. À part Steve Faulkner, peut-être. Et c'est là que je l'ai découvert. Moi, j'en ai toujours écouté. Ça a toujours fait partie de ma vie. Ça a toujours été une musique qui venait me chercher. Mon père écoutait Hank Williams, Willie Nelson, quand j'étais petite. Patti Klein, c'est tous des gens qui étaient là. Autant que Charles Aznavour, que tu sais, dans mon éducation musicale, le country était là autant que toutes les autres musiques. Et Plume, il n'a jamais fait de différence non plus. Il a fait de la musique, c'est du Plume, la traverse, là, tu sais, à un moment donné. J'ai été élevée comme ça. Fait que pour moi, faire Viens me chercher, c'était une chanson de country parce que le sujet l'est, parce qu'elle est sortie comme ça. Amène-moi au lac aussi. Mais j'ai une voix, je suis née avec un organe extrêmement nasillard. Fait que, tu sais, les gens, c'est sûr qu'ils associent ma voix au country, peut-être à cause de ça, mais c'est pas un album country, c'est un album grunge.
Country ou pas, le Chihuahua finit par séduire la critique et le public québécois. Mara réussit à attirer les foules, comme à l'époque de ses tournées avec les Frères à cheval ou les Colocs. Mais cette fois, les gens viennent pour ses chansons à elle.
C'était énorme. Les salles étaient pleines partout. C'était vraiment le fun. C'était vraiment, vraiment le fun. J'étais invitée partout. J'avais tous les festivals. J'ai 9 nominations à la disque. 9. Ça a été assez dithyrambique. Et les gens qui n'aimaient pas ça, comme René au miroir, qui disait « Mon chien chante mieux qu'elle », 2 semaines après, j'étais sa chanteuse chouchou. Fait que, tu sais, j'ai réussi à aller chercher vraiment un public très large, même si je faisais de la musique hyper différente et provocatrice. Fait que j'ai commencé ma carrière solo avec une réception magnifique pour la terminer un peu dans l'indifférence. Fait que ça a été très, très bien reçu, le Chihuahua. Tu vois? Donc, quand j'ai fait mon disque le plus rebelle, c'est là que j'ai été le plus apprécié. Les gens qui ont 55 ans maintenant et qui avaient 28-29 ans, quand j'ai sorti le Chihuahua, ils avaient besoin de ça. Parce qu'il n'y avait personne qui faisait ça. Il y avait Le Loup, mais il était quand même grand, grand public. Il y a eu Fred qui le venait graffiner un peu plus, mais il n'y avait pas de filles qui faisaient ça. Fait que je pense que à cause de ça, c'est venu chercher le public qui avait mon âge. Puis qui ont encore besoin de ça maintenant, même si moi, je suis rendue ailleurs. Moi, j'ai plus besoin de faire ça. Premièrement, je peux plus, mon corps est plus capable. Parce que je peux pas faire de musique sans danser, puis sauter, puis... J'ai de l'arthrose partout. Là. Sincèrement, je suis plus capable. Physiquement, j'ai tout donné au rock. J'ai tout donné, ma santé. Ma santé est plus capable de faire ça. Fait que c'est pour ça que je fais de la musique plus calme. Puis en même temps, ma tête est plus calme. J'ai plus ce besoin-là d'amour. J'ai plus ce besoin-là d'écrire des chansons qui sont suppliantes. Puis je vais voir, c'est une supplication à l'amour. Là. C'est une fille qui n'est pas capable d'être aimée, puis qui est amoureuse, puis qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Là.
Il n'y a pas juste Céline est une série balado de la Fabrique culturelle de Télé-Québec, réalisée en partenariat avec Transistor Média et animée par moi, Fabiola Nirva-Aladin. Réalisation, Julien Morissette. Musique originale, montage et mixage, Jean-Sébastien Côté. Chargée de production, Florence Crête-Lafrenière. Recherche, Delphine Lamotte et Gabriel Thouin. Gestion contractuelle, Julie Pelletier et Marie Gagnon. Graphisme, Étienne Duquerre. Eddie Mestre, Elisabeth Laure, chef de contenu, Ariane Gratton-Jacob. Dans cette deuxième saison, on vous propose 5 autres épisodes sur les albums marquants de la musique québécoise avec Mitsou, Hubert Lenoir, Alexandra Strelitzky, À la claire ensemble et Les vulgaires machins. La première saison avec Richard Desjardins, Lassa Dessella, Boule Noire, Mazayenne, Carquois et Fred Fortin est également disponible sur toutes les plateformes de balado-diffusion.
Écoutez tous nos balados sur balado.téléquébec.tv.